16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'Historiquement vôtre, et si je peux me permettre, pas n'importe lequel, puisqu'aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un des nôtres, en l'occurrence David Castello-Lopez.
Oh,
vous avez l'air bien au courant. Quand il s'agit de célébrer l'anniversaire d'un ami, Stéphane Bern, comme Puff Daddy avant lui, comme jadis Eddie Barclay, ne regarde pas à la dépense, que la fête commence. Impressionnant.
Joyeux anniversaire, David.
Merci
toute
beaucoup.
L'équipe d'Historiquement Vôtre s'est cotisée. Et en fin d'émission, vous aurez un somptueux cadeau.
Vous devinez ce qu'on a pour vous, David? Bon, c'est cotisé, hein.
De l'huile de vidange.
Oh non, mieux que ça, David, mieux que ça. Mieux que ça. Déjà, Stéphane, on a un superbe programme.
Ah oui. Aujourd'hui, on réunit trois personnages fascinants. Leur point commun, comme David, finalement, ils sont sacrément en avance sur leur temps.
Oui.
À commencer par un homme que l'histoire a encore oublié. Son nom, Severiano de Heredia. Signe particulier, il est descendant d'esclaves et il a fini maire de Paris. Oui. Il a surtout fait avancer la société sur de nombreux sujets, vous verrez. Puis je vous raconte Baruch Spinoza. Oui, Spinoza, quoi? Pour faire simple. Si simple, ses idées ne l'étaient pas forcément. On va voir comment le philosophe était lui aussi en avance sur son temps. Et de votre côté, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'un jeune artiste qui lui aussi est assez en avance sur son temps.
Oui, c'est même sa marque de fabrique. Son nom, Stéphane, ne vous dira rien. ASAP Rocky. Il faut dire à votre décharge que passer directement d'André Dasseri à ASAP Rocky sans passer ne serait-ce que par IAM ou NTM, c'est assez violent. ASAP est un rappeur, mais aussi un producteur, mais aussi un acteur, mais aussi un mannequin. Bref, on écoutera ensemble, Stéphane, cette musique qui électrise la nouvelle génération.
Du Jean Noin, du Tino Rossi,
non,
du André.
Non, justement, la génération est encore après. Ça va être facile à lui expliquer, je crois.
Avec nous, comme chaque jour, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour messieurs, bonjour à tous. Et oui, là, vraiment, on ne peut faire plus intime parce que je vais vous parler tatouage. Vous vous souvenez, l'autre jour, Mathieu, vous nous avez parlé d'Amelia Windsor, la petite cousine des princes William et Harry, 26e sur la liste de succession au trône d'Angleterre. Et vous nous avez expliqué qu'elle avait bravé le protocole parce qu'elle s'est fait faire 4 tatouages, notamment un gros tigre sur l'épaule gauche. Et puis vous nous disiez, vous voyez, c'est génial comme les temps changent à la cour d'Angleterre. Et en fait, vous vous plantiez complètement.
Parce qu'en réalité, en
matière de tatouage, l'aristocratie anglaise a été pionnière dès la fin du 19e siècle. Et donc, je vais vous emmener faire un petit tour chez les rois tatoués. Et vous verrez que la petite Amélia, elle n'est pas si up-to-date que ça.
Incroyable.
Avec nous également David Castello-Lopez. Oui. On remonte aux origines d'une invention, en l'occurrence,
le microscope, hein, qui nous a permis de faire quand même plein d'avancées très sympas dans l'existence, et puis qui aussi se présentait sous la forme d'un jouet qu'on pouvait utiliser quand on était enfant.
Oui,
absolument. Mes souvenirs de
entre
microscope.
Deux petites plaques de verre, oui, on s'amusait beaucoup.
Olivier Paul, c'est là aussi, Stéphane.
Pour une chose tout à fait régime.
Là, je me suis bien occupé de vous aujourd'hui. C'est garanti sans pratiquement aucune calorie. Ça s'appelle les gratons. Et comme son nom l'indique, dedans, il y a du gras, mais il n'y a pas de thon.
Mais c'est quoi les gratons, pardon? Je ne sais plus, en fait.
Eh bien, vous verrez que suivant les régions, ça recouvre deux spécialités.
C'est
du gras, mais
c'est charcutier quand même.
Oui, absolument.
C'est beaucoup de gras avec un tout petit liseré de vidange.
Ça, c'est la version lyonnaise dont on parlera, mais il y a une version également bordelaise qui est différente.
Un graton d'anniversaire pour David.
C'est original. On vous a offert du gras.
Enfin, un microscope. Voilà l'instrument qu'il nous faudrait pour distinguer l'ego de Stéphane Bern à l'issue du quiz. Bern to be alive, cette séquence tragicomique qui incline à l'humanité. Mais tout de suite, partons pour Cuba. Enfin, plus ou moins. Découvrons l'histoire de notre premier personnage. On n'a qu'un son pour toute cette partie-là du monde. Découvrons l'histoire de notre premier personnage qui avait des idées modernes pour son époque. Il est descendant d'esclaves, mais il est monté haut en devenant le premier et seul, jusqu'ici, maire noir de Paris. Stéphane Bern nous raconte cet homme aux idées d'avant-garde, Severiano de Heredia.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Direction Cuba, au temps de la colonisation espagnole. C'est sur cette île, qui connaît alors une croissance spectaculaire grâce à l'essor de la culture du café, du tabac et de la canne à sucre, que Severiano de Heredia voit le jour en 1836. Mais cette explosion démographique et économique cache dans le premier tiers du 19e siècle une réalité bien plus sombre. Toute la journée, un nombre invraisemblable d'esclaves venus d'Afrique par dizaines de milliers s'affairent sans discontinuer sous un soleil de plomb dans les plantations. Severiano porte d'ailleurs la trace de cette histoire jusque dans sa chair. Si sa peau est sombre, c'est parce qu'il est le fils de gens de couleur libre, autrement dit, parce qu'il descend d'esclaves affranchis ou libérés avec le temps, comme l'était le général Dumas, par exemple, le père d'Alexandre Dumas en son temps. Severiano est ce qu'on appelle alors un mulâtre, un métis né de l'union de sa mère, Béatrice, et de son père, Henri, enfin sur le papier, parce qu'il est assez probable que ce ne soit qu'une façade. Son père biologique est probablement son oncle et parrain, Ignacio de Heredia. Au passage, cela ferait de lui le cousin du poète José María de Heredia, l'auteur du sonnet Les Conquérants, dont vous connaissez au moins le début, Mathieu.
Bien sûr. Les Conquérants, magnifique.
Non. Comme un vol de Gerfaut hors du charnier natal, fatigué de porter leurs misères hautaines.
Bien sûr, voilà.
De Palos, de Moguier, routiers et capitaines, partaient ivres d'un rêve héroïque et brutal.
Tout ça de mémoire, mais vous me fascinez, Stéphane.
Non, j'avais pris le soin de prendre quelques notes. Qu'il soit ou non son véritable père, ce parrain a en tout cas montré un bel attachement à son filleul, au point d'en faire son héritier. Et comme l'homme était un riche planteur, Severiano de Heredia a grandi dans une certaine aisance, pour ne pas dire dans le luxe. C'est déjà rare pour un descendant d'esclaves, mais son parcours va très vite en faire un homme au destin exceptionnel. À 10 ans, sa famille souhaitant le protéger, Severiano fuit Cuba et s'embarque pour Paris. La richesse et les réseaux de ses proches lui ouvrent vite les portes de la bonne société et des établissements les mieux fréquentés. Élève au prestigieux lycée Louis le Grand, il fait des merveilles au point de recevoir le grand prix de l'établissement à 19 ans. À cet âge, Severiano est déjà à l'abri du besoin, ce qui lui permet de profiter pleinement de la vie. C'est un bel homme, élancé, intelligent et rompu aux usages de la bonne société. C'est aussi un auteur cultivé qui se lance dans la poésie et la critique littéraire avec un certain talent, mais aussi un certain dilettantisme. Severiano de Heredia connaît une existence paisible jusqu'en 1870, lorsque la guerre contre la Prusse entraîne la chute du Second Empire et la naissance chaotique de la Troisième République. Pour Severiano, c'est un déclic. Au plus fort de cette année terrible, il réclame et obtient la nationalité française grâce à Léon Gambetta en personne, alors ministre de l'Intérieur, à qui il adresse ces quelques mots. « Je considère la France comme ma véritable patrie, la mère de mon esprit. Aujourd'hui qu'elle est en péril, je crois de mon devoir de lui payer ma dette de reconnaissance. » À 34 ans, Heredia décide aussi de s'engager en politique. La Troisième République est bien fragile encore. Libéral convaincu, Severiano se range dans le camp des républicains les plus exigeants. Humaniste et passionné, il attend davantage de pouvoir pour les départements et les communes. Il milite aussi pour la séparation de l'Église et de l'État, avec 35 ans d'avance sur la loi de 1905. Et il réclame une grande loi sur l'instruction universelle, à qui Jules Ferry donnera une réalité des années plus tard, en 1882. Petit à petit, Severiano s'installe dans la vie politique. En 1879, il est élu président du Conseil de Paris, ce qui en fait le premier et seul maire noir de l'histoire de la capitale. Même si la place est symbolique, même s'il n'a pas les pouvoirs de ses successeurs contemporains, il laisse un bel héritage, puisque c'est lui qui crée notamment les bibliothèques municipales. Mais sa carrière politique ne fait que commencer. Élu 2 fois député, entre 1881 et 1889, il porte ses idées novatrices avec une éloquence remarquée, défend le principe de la laïcité et l'école et bataille pour sa grande cause, l'enseignement public. Il défend aussi l'idée d'une éducation identique pour les filles et les garçons et lutte également pour la réduction à 10 heures des journées de travail pour les femmes et les enfants. Ses convictions, il les porte aussi à titre personnel en soutenant sa fille Marcel lorsqu'elle s'engage dans des études scientifiques qui en feront l'une des premières grandes physiologistes françaises. En 1887, à 51 ans, Severiano de Heredia atteint le point culminant de sa carrière en devenant le premier ministre noir de la Troisième République, chargé des travaux publics dans le gouvernement de Maurice Rouvier. C'est une période marquée par la menace que fait peser sur la République le général Boulanger, à qui Heredia s'oppose ouvertement. C'est aussi le temps des grands défis urbains, et Severiano s'attaque à un chantier emblématique, celui de ce qui deviendra plus tard la première ligne du métro parisien en 1900. En homme convaincu des bienfaits de la technologie, Heredia se passionne aussi pour les débuts des moteurs de voitures électriques, avec là encore, comme dans ses idées, de l'avance sur son temps. Mais Heredia est sur le déclin. En 1889, un an après la fin de son ministère, il perd un mandat de député qu'il ne parvient pas à reconquérir 4 ans plus tard. Il consacre alors la suite de son existence à ses deux passions. L'histoire de la littérature d'abord, l'éducation ensuite, en aidant sa femme à fonder l'une des premières écoles d'enseignement supérieur pour jeunes filles. Quand il meurt brusquement en 1901, son décès passe à peu près inaperçu. 14 ans après son élection à la tête du Conseil de Paris, tout le monde semble avoir déjà oublié le premier maire noir de la capitale. Des carrières comme la sienne ouvrent en général droit à des hommages, même minimes, comme un portrait dans les couloirs de la mairie de Paris, mais pas dans le cas de Severiano de Heredia. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'il appartenait au gouvernement Rouvier et que celui-ci s'est écroulé pour une sombre affaire de trafic de légions d'honneur. Severiano n'y était pour rien, mais l'affaire a rejailli sur lui. La seconde raison, sans doute la principale pour l'historien Paul Estrade, qui a retrouvé sa trace il y a une dizaine d'années, c'est hélas sa couleur de peau. Tant que Severiano de Heredia s'est tenu éloigné de la politique, sa peau sombre n'a posé de problème à personne. Mais tout a changé quand il est devenu député puis ministre. À une époque où la Troisième République s'est lancée dans une aventure coloniale en se justifiant par la nécessité d'éduquer des peuples qu'on jugeait ouvertement inférieurs, Heredia a fait l'objet d'attaques que chacun trouverait aujourd'hui inadmissibles. Mais cette fin du XIXe siècle est celle où le grand public peut visiter de véritables zoos humains, par exemple au cours de l'exposition universelle de 1889 à Paris. Sous prétexte de montrer la variété des possessions coloniales, on monte de faux villages indigènes et on y expose quelques malheureux payés une misère pour jouer le rôle de sauvages ou de cannibales. Ces hommes et ces femmes ont la même couleur de peau que le ministre Heredia et il n'en faut pas plus pour inspirer à ses adversaires des saillies parfois abjectes. Pour cela, Heredia est le nègre du ministère, le nonchalant créole, le ministre chocolat, le nègre groublard aux grosses lippes. On ne se prive pas non plus de pointer les paradoxes d'un ministre pour qui des esclaves travaillent encore dans ses plantations cubaines. Ce noir qui possède des noirs offre une cible facile. Évidemment, Severiano de Heredia en souffre profondément. Non sans fierté, il ne s'abaissera pas à répondre publiquement à chaque attaque. Voilà sans doute pourquoi cet étranger, sans doute naturalisé trop vite aux yeux de ses ennemis, disparaît dans l'indifférence générale. L'oubli a été réparé en partie depuis par son biographe Paul Estrade, mais aussi par la mairie de Paris qui a donné son nom il y a quelques années à une petite rue des Batignolles dans le 17e arrondissement de Paris. Bien tard sans doute, mais comme dit le proverbe, mieux vaut tard que jamais.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour essayer d'en savoir plus sur Severiano de Heredia, nous sommes avec un auteur qui lui rend hommage aussi en BD cette fois. Bonjour Antoine Ozanam.
Bonjour.
Bonjour Antoine Ozanam. Vous êtes scénariste avec Isabelle Détemps, qui elle signe les dessins de la bande dessinée Severiano de Heredia, élu de la République, qui vient tout juste de paraître aux éditions Passé Composé. Si vous lui consacrez une BD, c'est parce qu'il a, selon vous, toutes les caractéristiques du héros ?
Disons que c'est un personnage très intéressant. Héros, peut-être pas, mais disons personnage principal.
Vous, personnellement, comment vous avez découvert ce personnage ? On disait qu'il restait méconnu, absent largement des livres d'histoire. Vous dites dans la présentation de la BD que Barack Obama l'a cité dans son discours d'investiture, le considérant comme un exemple. C'est là que vous avez eu connaissance de lui ?
Oui, tout à fait. Et exactement. C'est lors d'un de ses 3 discours, en fait, où il dit « Si je suis le premier président noir des États-Unis, il ne faut pas oublier que 100 ans auparavant, il y avait un maire noir à Paris. »
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris lorsque vous avez travaillé sur la vie de Severiano de Heredia ? Qu'est-ce que vous avez découvert sur lui ?
Il a été complètement oublié et Je suis toujours étonné de voir qu'on puisse faire des impasses sur un personnage aussi riche. Après, c'est un personnage très intéressant à travailler puisqu'il a des contradictions énormes.
Ce qui paraît le plus surprenant, c'est qu'au fond, dans le couloir des anciens maires de Paris, même si autrefois, effectivement, comme j'ai rappelé, c'était le président pouvoir, du Conseil de Paris, c'est pas le même pouvoir. Mais je comprends pas qu'il n'y ait pas son portrait. C'est parce que normalement, il y a une continuité dans la mairie de Paris.
Et oui, Surtout qu'il a un portrait magnifique, très 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 bien réalisé par un peintre incroyable.
Vous m'intriguez quand même avec ce portrait. Comment est-il représenté et où existe-t-il? Où peut-on le voir?
Où se trouve-t-il? J'en ai aucune idée. Je sais que je l'ai vu pendant mes recherches sur le personnage. En fait, il est très très proche de la photo qui est faite de lui quand il a une trentaine d'années, avec un regard déterminé, avec une moustache qui ferait peur aujourd'hui, je pense. Et une coupe de cheveux aussi, formidable. Mais sinon, il a une posture qui montre son caractère, c'est incroyable.
Alors comment, c'est absolument incroyable d'imaginer qu'il ait pu être oublié. Est-ce que c'est lié à sa personnalité? Il était un peu dilettante, Stéphane l'a raconté, ou alors tout simplement à une forme de racisme très présent à l'époque qui fait qu'on l'a rapidement mis aux oubliettes de l'histoire. D'après vous, qu'est-ce qui s'est vraiment passé?
Si je savais au moins. Non, je pense qu'effectivement il y a une sorte de racisme forcé. Enfin, je veux dire, on met pas forcément en avant les bonnes personnes.
Mais il y a quand même un certain nombre de particularités qui auraient pu accroître sa notoriété. Enfin, nous, en faisant le récit, on est fasciné. Le fait, voilà un homme qui crée les bibliothèques municipales.
Rien que pour ça, il aurait pu rester.
Moi, j'appellerais n'importe une des bibliothèques municipales de Paris, je lui donnerais son nom.
Ce serait le minimum.
Mais même le fait d'avoir son nom de rue, ça a mis énormément de temps. Oui. C'était sous Delanoë qu'il y a eu une proposition. Il a fallu attendre encore plus d'une dizaine d'années.
Il était finalement trop en avance sur son temps, parce qu'il avait trop d'idées novatrices. Est-ce qu'il passait à l'époque pour un hulu-berlu?
Non, par quelqu'un qui met un peu trop de piment dans tous les plats, oui, ah, sans oui. Doute, dans le sens où ça titille un peu quand même quelqu'un qui fait, par exemple, qui met tout son argent dans un moteur électrique à la fin de sa vie. Évidemment, on peut penser que c'est un fou. Lui-même sait qu'il ne va pas gagner forcément beaucoup d'argent avec ça, mais il le fait parce qu'il a des convictions. Ouais. Et du coup, ça doit un peu gêner pas mal de personnes.
Dans votre BD, lorsqu'on retrouve Severiano d'Heredia à Paris, il est perçu comme un homme, pour reprendre les propos d'un des personnages, intelligent, doué et plein d'idées, mais il pose cette question: à quoi cela sert-il si on n'en fait rien? Au final, il semble en avoir fait quelque chose, il semble avoir été maître de son destin, non, Severiano d'Heredia?
Oui, il fallait juste le réveiller à un moment ou à un autre, parce qu'effectivement, il s'amusait beaucoup. C'est-à-dire que sans problème d'argent, il préférait profiter de la vie.
On découvre aussi dans votre BD que c'est un beau parleur qui sait bien s'entourer. Au fond, même s'il arrivait de Cuba, bon, il avait des gros moyens, il était reçu, il avait très vite appris les codes de la très bonne société parisienne.
Oui, il a fait toutes les bonnes écoles de Paris aussi, oui. Parce qu'il est arrivé assez jeune, et puis donc après il fait pas mal de choses, effectivement, avec un parcours exceptionnel. On le reconnaît comme un bon élève, il a des prix d'honneur, etc. etc. Donc, il a une très très bonne éducation.
Et il était, on a l'impression qu'il touchait un peu à tout, parce que, bon, un politique, on imagine qu'il avait un certain bagout. Il était fort en sciences aussi, si après il y a eu cette histoire du moteur électrique. C'est quelqu'un qui s'intéressait à beaucoup de domaines différents.
Alors, oui, c'est un curieux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'au début, il fait des très bons articles sur l'art, surtout les arts d'ailleurs. Et puis il y va au culot, c'est-à-dire qu'il rentre dans un journal et il dit: voilà, je suis votre nouveau critique et vous allez voir, avec moi ça va changer. Et la personne lui pose la question de savoir pourquoi, et automatiquement il dit: mais c'est parce que moi je vais aller tous les soirs au spectacle et je vais connaître tout. Une fois qu'il a un domaine, il s'y plonge et il devient incollable.
Puisqu'on parle des personnages qui sont très en avance sur leur temps, on le disait avec Mathieu, c'est vrai que ses actions, dès qu'il touche à la sphère publique, ça touche à l'éducation. Par exemple, il a prôné très tôt la laïcité à l'école, l'enseignement public, l'enseignement supérieur pour les filles, l'égalité entre les garçons et les filles, les bibliothèques municipales. Tout ça, il l'a prôné avant que ça rentre dans les faits. C'est véritablement pour vous un personnage d'avant-garde?
Disons que, en fait, moi je le compare, parce que j'aime beaucoup, à David Bowie. Et c'est pas que c'est un inventeur incroyable, c'est qu'il sent les choses et il va s'en emparer avant que tout le monde s'en aperçoive. Il y a le côté aussi dandy, mais ça, c'est autre chose. En fait, c'est quelqu'un qui capte très très rapidement et qui comprend que c'est comme ça que la société va changer.
Mais Antoine Ozanam, d'après vous, il chope des idées qui sont dans l'air du temps et il s'en sert pour faire avancer sa carrière, ou c'est quand même quelqu'un qui a des convictions ?
Non, c'est effectivement des convictions. Mm. Quand il commence à devenir franc-maçon, c'est certainement pour aider sa carrière. Mm. Voilà, c'est un petit parcours dans la franc-maçonnerie jusqu'à devenir enfin naturalisé, puis pouvoir se lancer en politique. C'est pas forcément ses convictions profondes. Mm. Par contre, toutes les idées qu'il a mis en place sont ses convictions. Ouais.
Dans la BD, vous montrez que Severiano d'Heredia assiste à l'exposition universelle de 1889 qui mettait en scène des os humains. Lui, homme politique métis, descendant d'esclaves et naturalisé français, il porte forcément un regard critique sur ce genre d'événement. C'est pas le cas de la société française à cette époque-là, il se démarque.
Alors là aussi, je crois qu'il chope quelque chose dans l'air du temps qui va lui déplaire. D'ailleurs, c'est bizarre parce que c'est à peu près la dernière année de sa vie politique. Et en fait, par la suite, il va comprendre aussi que le monde va devenir un peu contre lui, entre guillemets, dans le sens où c'est contre toute personne de couleur. Mmh. Et à ce moment-là, alors il va réessayer d'avoir un mandat, mais même au sein de sa famille politique, ça ne marche pas. Et du coup, il lâche et il va faire autre chose.
J'ai mentionné les insultes raciales dont il a été victime. Enfin, c'était horrible. C'est même... très pénible de le dire, nègre de la République, ministre chocolat. Au fond, raconter sa vie dans une BD, Antoine Ozanam, c'est aussi une façon de faire prendre conscience aux jeunes lecteurs du racisme que Severiano d'Heredia a subi.
Oui, tout à fait. Alors, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les caricatures, parce que les journaux satiriques de l'époque, ils vont de leurs caricatures et c'est ignoble. C'est-à-dire que franchement, ça vaut tout ce qu'on a eu vécu par la suite à propos des Juifs. Les caricatures sur Severiano d'Heredia sont c'est abject, quoi. Et donc oui, si la BD peut permettre que on parle un tout petit peu de tous ces problèmes-là, ouais, c'est chouette.
Merci beaucoup, Antoine Ozanam, de nous avoir éclairé sur cette figure méconnue. Je rappelle le titre de votre bande dessinée, Severiano de Heredia, élu de la République, qui vient tout juste de paraître aux éditions Passé Composé, avec les dessins d'Isabelle Detan. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires qu'elle écrit parfois sur ses mains pour ne pas les oublier. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Oui, aujourd'hui, Clémentine, c'est pas sur les mains, c'est sur le corps qu'on peut voir vos messages. C'est les tatouages. Vous enlevez notamment les vêtements d'un roi anglais.
Non.
Pour... Vous le mettez à nu, c'est shocking quand même.
Certes, mais avant ça, à mon avis, vu les résultats globaux du quiz, le plus gâteux de nous deux n'est pas forcément celle qu'on pense. Hein. Suivez mon regard.
Hein. Non, mais donc,
pas parce que vous expliquez que je m'écris sur les mains des petits mots pour pas les oublier.
Ça s'appelle une image, puisque
oui,
on va parler...
Oui, c'est pas une image extrêmement laudative.
J'ai plus besoin d'intervenir pour que vous vous engueuliez tous les deux.
Bon, rendez-vous sur le prêt tout à l'heure, de toute façon. Rira bien qui rira le dernier. Oui, je vais vous parler des tatouages. Vous savez que de nos jours, évidemment, c'est très à la mode dans tous les milieux, mais à la fin
avant,
du 19e...
Avant, c'était les marins, surtout.
Oui, c'était un marqueur social, tout à fait. Se faisaient tatouer les marins, en priorité, c'est vrai. Les bagnards, les repris de justice, aventuriers, prostituées, les femmes amoureuses qui se faisaient tatouer le nom de l'homme de leur vie. Et puis les ouvriers dans certaines professions. Globalement, l'univers du tatouage, c'est alors avant tout celui de la marginalité. Mais en la matière, les Anglais qui sont toujours capables de tout vont chambouler les pratiques, les idées reçues et faire du tatouage le must-have absolu de la gentry britannique à la fin du 19e. Alors, il y a des rois, oui, qui de père en fils vont se faire tatouer. Et ça commence avec Édouard VII. Alors, il avait probablement la question de la nature de son tatouage a fait couler beaucoup d'encre. Une encre marine et peut-être même une croix. Mais c'est surtout à partir de son fils, le duc d'York, le futur George V, qui lui naît en 1865, que ça devient up-to-date d'avoir un tatouage. Parce qu'il voyage, ce jeune homme, avec son frère d'ailleurs, et arrivé au large du Japon, à bord de la Bacchante, c'est le nom de son navire, en 1879, il a donc 14 ans, c'est un tout jeune homme, hein. Il se fait tatouer un très beau dragon rouge et bleu sur le bras. à l'occasion d'une escale à Yokohama. Vous trouvez pas, ça fait un peu un singe en hiver, mais c'est la vérité. Et à l'époque, comme on est au début de l'ère Meiji, le tatouage commence à être interdit. Donc il y a encore des maîtres tatoueurs qui ont l'intégralité du corps tatoué, mais c'est interdit. Mais évidemment, c'est le duc d'York, c'est le futur roi d'Angleterre. Ben,
oui, il l'est déjà à l'époque, parce que son frère aîné est mort. Non, il n'est pas encore mort.
Non, je ne pense pas qu'il soit encore mort, puisqu'il voyage avec son frère, précisément. Ah ben oui, donc il est le futur roi d'Angleterre, mais il ne le sait pas encore. En tout cas, on lui envoie Ori Shiyo, qui est le plus grand tatoueur japonais, parce que pour le futur roi d'Angleterre, enfin un de ses fils, en tout cas, on peut quand même envoyer ce qu'on a de mieux. Tous les officiers de bord l'imitent, et ça y est, la mode est lancée. Et par un curieux fait du hasard, son cousin, vous voyez, Nicolas II, qui est son contemporain et son sosie, ils sont sosies l'un de l'autre, Nicolas II et Georges V, tous les deux les petits-fils de la reine Victoria, il va se faire tatouer le même dragon en 1891, mais dans des couleurs un peu différentes, le sien est noir, aux cornes jaunes avec des pattes vertes et un ventre rouge, le tatouage a quand même duré 7 heures parce qu'il fallait endurer le truc. Et ça devient tellement à la mode que la machine à tatouer électrique est inventée la même année en 1891.
C'est surtout que leurs mères sont sœurs en plus.
Et oui, donc ça c'est l'endogamie dans les familles royales.
Ils finissent par se ressembler complètement.
Alors du coup, à l'imitation des souverains, la société la plus sélecte court chez les tatoueurs, des comédiennes illustres, des grandes dames, tout ce qui porte un grand nom n'hésite pas à suivre le mouvement. La marquise de Londonderry se fait tatouer un serpent sur la jambe en 1903. Tel sportif, lui, se fait tatouer sur le biceps un club de golf. Il y a les femmes qui sont opposées aux suffragettes, sont un mouvement très très vivace à la fin du 19e. Elles se font tatouer à la base de l'annulaire leur alliance avec la date de leur mariage ou le nom de leur mari, pour montrer que non, vraiment, on ne peut défaire un mariage et que le mariage c'est pour la vie. On se fait tatouer une devise familiale, ça a de la gueule. Hein. Par exemple, moi, domicile adoré, vous, pour tirons garder, ça serait pas mal. Ou le portrait de son animal de compagnie préféré, chien, chat, perroquet. Vous n'avez pas songé à vous faire tatouer une de vos poules? Ça serait bien. Non. Et vous, là, vous, Mathieu, un ballon de basket.
Mon chat, mon ballon
sur
basket,
le torse,
quand même.
Je vois bien sur le torse, oui. Nicolas de Flus, un patron de la Suisse.
J'avais pas pensé, vous me donnez des idées comme ça, effectivement.
Et les Anglais se font tatouer les paupières, c'est le début du maquillage permanent. Alors la grande question que l'on se pose encore aujourd'hui dans le landerneau des tatoueurs, est-ce que la mère de Churchill, Lady Randolph Churchill, avait un ouroboros tatoué sur le poignet?
C'est quoi un ouroboros?
Un ouroboros, vous connaissez très bien sans le savoir, c'est un serpent qui se dévore lui-même. Et Lady Churchill en aurait eu un au poignet dissimulée par un bracelet. En fait, on pense qu'elle n'a jamais eu de tatouage, mais qu'elle aimait le laisser penser, ça a conforté son image de femme libre et un peu sauvage. Idem pour son fils Winston. Comme ancien officier de marine, il aurait eu une encre de marine tatouée sur l'épaule gauche. L'encre de marine, c'est un motif très très fréquent parce que ça symbolise le fait de garder le cap, quelle que soit la force des vents contraires. C'est un beau symbole, ça. Alors, le hic, c'est qu'on a des quantités de photos de Churchill, y compris torse nu, mais sur aucune d'elles n'apparaît un tatouage. En avait-il un ou pas? Alors, il y a aussi, en matière de tatouage, évidemment, l'anecdote très connue de Bernadotte. La petite histoire, vous la connaissez, voilà, c'est ça.
Il avait fait tatouer sur sa poitrine « mort au tyran ». Ouais. Il a jamais, quand il est devenu roi de Suède, il n'a jamais voulu se déshabiller devant son médecin.
Voilà, c'est rigolo. Mais il avait aussi un bonnet phrygien sur l'épaule, semble-t-il. Mais donc, devenu roi de Suède, il ne voulait pas montrer qu'il avait eu des sympathies pour la Révolution. C'était pas facile à assumer. Pour en revenir à votre Amelia Windsor, effectivement, elle a bravé le protocole royal avec ses 4 tatouages, mais comme nous venons de le voir, elle n'a fait que renouer avec une tradition ancestrale, qui était, il est vrai, plutôt réservée aux hommes, et c'est peut-être de ce point de vue-là qu'en effet, les temps ont vraiment changé.
Merci beaucoup Clémentine.
Alors tout à l'heure, vous avez traité Stéphane ici présent de gâteux. Nous allons voir si Stéphane est gaga, gâteux, dans le quiz. C'est tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Dans la vie, il y a ceux qui ont toujours un coup d'avance et puis il y a ceux moins chanceux qui ont toujours un coup de retard. Pour les distinguer, on a inventé le quiz. Burn to be Alive, c'est maintenant et ça commence avec vous, Stéphane. Stéphane, j'avais envie aujourd'hui de vous faire plaisir. Voici une question... Torture médiévale. avec votre musique préférée. Au Moyen-Âge, la décapitation est courante, tout comme la pendaison. Mais les faux monnayeurs ont le droit à un tout autre châtiment. Ils sont plongés dans de l'eau bouillante.
Ils sont bouillis, oui.
Mais on peut aussi ne pas faire le quiz, si vous voulez.
Ah, pardon.
On peut aussi s'arrêter. Alors, je vais demander une question supplémentaire. Ils sont plongés dans de l'eau bouillante. Ça, vous dites vrai ou faux?
C'est vrai, ça.
C'est vrai.
Oh, pardon.
C'est vrai.
Je pensais pas que c'était un vrai ou faux. Moi, je croyais que la question allait continuer.
Mais la question va venir, là.
Je vais l'inventer sur le champ. Ouais. Je vais inventer une autre question. Quelle était la nature du crime des faux monnayeurs et qui justifiait, quelque part, ce supplice terrible de l'eau bouillante?
Un faux monnayeur est celui qui fabrique
un type de crime.
Il fabrique de la fausse monnaie.
Oui, ça joue bien.
Sur
mais...
la monnaie, c'est un privilège régalien. C'est-à-dire, c'est pire que... C'est du lèse-majesté, puisque c'est un privilège royal.
Bonne réponse de Stéphane Bern. Un crime de lèse-majesté, effectivement, car il offense le roi. Le code pénal napoléonien le considère comme un crime contre la chose publique par la suite. Question numéro 2 pour vous, Clément. N'attendez bien la fin de la question pour m'éviter de devoir réinventer une autre question. Je ne suis pas payé pour ça. Restons dans la peine capitale. Si, Clémentine, vous étiez une sorcière sur le bûcher, si le bois est vert, est-ce que ça change quelque chose à la condamnation? Vous êtes sur le bûcher, on a choisi du bois vert plutôt qu'un autre type de bois. Est-ce que ça veut dire que la condamnation était différente?
Ah, est-ce que le bois vert aurait été utilisé délibérément pour le bûcher de certaines sorcières? Parce qu'on ne peut pas penser que ceux qui présidaient à ce genre d'opération se trompaient sur le choix du bois. Donc c'était une sorte en somme une sorte de fausse exécution dans laquelle on aurait choisi ce bois vert pour comme une forme de dissuasion.
Vous allez loin dans la réflexion.
La question c'est est-ce que le fait que le bois soit vert changeait quelque chose à la condamnation? C'est-à-dire on pouvait... probablement oui, je pense que oui, je répondrai oui.
Vous avez gagné.
Et oui, Stéphane, en grand expert des supplices médiévaux, le sait. Plus le bois est vert, plus il fera de fumée et plus ça tuera rapidement la victime. En revanche, si le bourreau met peu de bois, pas vert, le supplice peut durer des heures. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. La dernière petite question sur le bûcher. On y est si bien. Parfois, il arrivait que le condamné se repentait. Si c'était le cas, une personne de l'assistance avait le droit alors de demander en mariage le condamné à mort. Qu'est-ce qu'il se passait ensuite?
Il arrivait que le condamné se repentisse.
Effectivement, il arrivait que le condamné se repentisse. Si c'était le cas, une personne de l'assistance avait le droit de demander en mariage le condamné à mort. Ça, c'est vrai. C'est l'info que je vous donne. Qu'est-ce qui se passait ensuite?
On ne libérait pas le condamné pour autant.
Je vous pose la question. Est-ce que ça changeait quelque chose? Et si oui, qu'est-ce qu'il se passait?
Alors, bon, en Inde, on invitait la personne qui venait d'épouser à le rejoindre.
Sur le bûcher. Non, mais en France, si au moment d'être pendu, quelqu'un vous demande en mariage, vous êtes gracié.
Oui, normalement, c'est la grâce.
Vous dites... Que se passait-il si quelqu'un dans l'assistance demande en mariage le condamné à mort qui est en train de cramer?
Ben normalement, on le gracie, donc on éteint le feu.
On éteint le feu.
Vous avez gagné!
Oui, bien sûr, vous avez gagné, Stéphane. Effectivement, sans que je vous donne les propositions, parce que je vous emmène là dans les coulisses du quiz, vous avez des propositions, mais vous êtes tellement fort sur les supplices que les possibilités étaient, on brûlait quand même le jeune marié, la peine était annulée, ou on brûlait le jeune marié et la personne de l'assistance. Du coup, sauf gros coup de foudre, ce genre d'initiative était rare. La peine était annulée, je cite mes sources, le livre de Julien Arbois, La vie insolite de nos ancêtres aux éditions City. Question numéro 4, Clémentine Portier-Kaltenbach, 1870, c'est la naissance du grand magasin parisien La Samaritaine. Le nom est à l'origine celui d'une caserne de pompiers qu'il a fallu installer ailleurs pour l'occasion. Vrai ou faux?
Non, c'est faux. C'est le nom de la pompe qui était installée au bout du pont Neuf et sur laquelle était figuré un haut relief représentant la scène biblique de La Samaritaine. Donc c'est la pompe à eau du pont Neuf, La Samaritaine. C'est de là qu'elle tient son nom.
Oui, mais... Oui. Non, oui, oui.
Oui, non.
Mais une réponse assez imprécise, car ma vraie question était, quelle était la décoration sur cette pompe?
Eh bien, la décoration, c'est une Samaritaine donnant à boire à un malheureux.
À peu près, il y a un autre personnage dessus.
Bah, c'est le Christ, elle donne à boire au Christ.
Oh, la bonne réponse. Bon, c'est bon. Alors là, c'est bon. Là, c'est bon. Deux partout. Question numéro 5. Non, bravo. Là, vraiment, parfois, je me moque de vous, mais vous êtes quand même très fort. Question numéro 5. Trois propositions. Question de rapidité. C'est le 7 octobre 2001 que commencent les premiers combats aériens américains et anglais en faveur de l'alliance du nord de le conflit entre les forces afghanes et les talibans suite aux événements du 11 septembre. On en parle beaucoup en ce moment. Comment s'appelait la toute première opération. Trois propositions. Justice sans limite, liberté immuable ou en avant Guingamp.
Deux.
Deux, c'est une victoire de Clémentine Portier-Keltenbach. Liberté immuable. Immuable voulant dire normalement qui ne changera pas. Bah oui, Justice sans limite était le premier nom envisagé pour l'opération. Bravo Stéphane, vous étiez peut-être dans les secrets de la Maison Blanche à ce moment-là. Oui, mais il a été jugé possiblement offensant.
Et
voilà.
Oui.
Comment ça s'est décidé? C'était liberté immuable. C'est une belle victoire. Vous avez été vraiment impressionnant aujourd'hui, je tiens à le dire.
Ah,
il faut rendre à César ce qui est à vous. Merci, bravo.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Quel bonheur de passer l'après-midi en votre compagnie. Quel privilège pour moi d'être avec vous pour parler de ce qui me tient le plus à cœur, comme ça, en face à face.
C'est moi, Stéphane.
Ah oui, et vous?
Il faut pardonner Stéphane, il est ému. Car aujourd'hui, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais c'est l'anniversaire de David. On lui a pas encore dévoilé son cadeau. Pour l'instant, il doit encore essayer de le deviner, là, à travers l'emballage. Alors, David?
Tiens, on dirait une zézette de fille.
Non, on s'est cotisé, mais le bilan de la cagnotte Litchine nous a permis de vous offrir ce type de cadeau-là. C'est quelque chose de plus culturel. Je vous laisse réfléchir. Pendant ce temps, on refait un petit point sur le sommaire, Stéphane.
Oui, et c'est déjà un beau cadeau pour David.
Oh, oui, oui.
Une émission consacrée à nos personnages de l'histoire qui étaient, comme lui, en avance sur leur temps. Après Severiano de Heredia, l'homme politique aux idées qui ont fait avancer la société, je vous raconte un philosophe dont vous connaissez forcément le nom, et peut-être moins le prénom, Baruch Spinoza. Lui aussi était en avance sur son temps. Et vous, Mathieu, vous nous parlez d'un garçon qui est tellement en avance sur son temps que j'ai pas eu le temps de le connaître.
C'est un tort, Stéphane. Son nom de scène est à la fois fascinant et ridicule, Assap Rocky. Rien à voir avec le film Rocky, vous verrez, A$AP est un des rappeurs les plus en vue aux États-Unis, un symbole aussi de la branchitude, puisqu'entre deux albums, Monsieur Rocky est aussi mannequin.
Ah bah aussi, Mathieu aurait pu faire carrière dans le mannequinat.
Oh oui, oui.
Mais ils ont choisi la radio et c'est tout à leur honneur. Hein, David Cassel-Lopez, vous nous racontez les origines du microscope.
Exactement, les origines du microscope. C'est pas si loin de l'époque de Spinoza, donc on pourra faire un petit lien, disons.
Et puis chez Holida aussi, il y avait des mannequins. Alors on demande à Olivier Pou.
Oui, moi non, plus aucun rapport avec Spinoza pour la recette qui va venir.
Il adorait les gratons.
Mais alors là, pour l'apéro, c'est irrestible.
Vous moi, savez, j'aime bien graton en période du loto du patrimoine. J'aime bien graton.
Oui. Ouais.
Bien. Enfin,
on a le graton qu'on peut. Hein.
Ah bah oui, bah
exceptionnellement, anniversaire de David oblige, nous truquerons la lutte finale afin que, au moins le jour de ses 50 ans, David puisse goûter aux joies de la victoire rien qu'une fois. Mais d'abord, découvrons notre deuxième personnage du jour qui était très en avance sur son temps. Pour le comprendre, Stéphane a passé la nuit à relire tous ses traités. Et pour les comprendre, ça n'a pas été une mince affaire. Il nous raconte Spinoza.
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
La meilleure manière de partir sur les traces de Spinoza serait sans doute d'aller flâner dans les rues du quartier juif d'Amsterdam à deux pas de la maison de Rembrandt, qui a d'ailleurs sans doute croisé le petit Baruch Spinoza le long des canaux à la fin des années 1630. Lorsque le futur philosophe naît en 1632, cela fait une cinquantaine d'années que de nombreuses familles juives se sont installées dans les Provinces Unies, ce qui correspond en partie aux Pays-Bas d'aujourd'hui. La plupart ont fui le Portugal ou l'Espagne pour refaire leur vie dans des cités réputées plus tolérantes avec les Juifs. Certains sont médecins ou banquiers, d'autres sont commerçants, comme le père de Baruch, spécialisé dans le négoce de l'huile d'olive et des fruits secs. Les Spinoza sont des gens prospères, éduqués et attentifs aux débats d'idées qui traversent le XVIIe siècle. À 21 ans, Baruch Spinoza semble d'abord marcher dans les pas de son père tout juste décédé. À l'âge où il reprend l'affaire, la communauté juive connaît bien sa remarquable intelligence, sa silhouette et ce visage allongé aux grands yeux noirs. Spinoza est un homme réputé pour ne jamais se mettre en colère, même lorsque sa sœur Rebecca et lui se déchirent autour de l'héritage paternel. Et pourtant, un coup de tonnerre éclate en juillet 1656. À 23 ans, sa propre communauté le frappe de ce qu'on appelle le Kherem, l'un des pires châtiments de la tradition juive qui tient à la fois de l'excommunication et de l'anathème. Le texte est incroyablement dur. Qu'il soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, que personne ne l'approche à quatre coudées, veuille l'Éternel allumer contre cet homme toute sa colère et déverser sur lui tous les maux du livre de la loi.
Spinoza n'est plus admis à participer au rite. Il ne peut rien vendre, ni rien acheter, pas plus qu'il ne peut enseigner. Mais que s'est-il passé ? Spinoza n'a encore rien publié à cette date, mais on sait qu'il a déjà découvert le rationalisme de Descartes et que cette lecture l'a assez marqué pour qu'il tienne des propos jugés scandaleux. Il a même assez agacé les plus acharnés pour qu'un soir, le long des canaux, un homme tente de lui porter un coup de poignard. Spinoza s'en est sorti indemne, mais on dit qu'il garde depuis son manteau troué en guise de souvenir. Le jeune homme ne lève pas le petit doigt contre cette sentence. Il préfère quitter Amsterdam et commence à gagner sa vie en taillant ses lentilles optiques qui servent à fabriquer des lunettes ou des microscopes. Ça ne rapporte pas des milliers des cents, mais il se fait vite une réputation qui lui permet de vivre modestement. Installé à La Haye en 1663, Spinoza commence à construire son œuvre, non sans précaution. Ses idées sentent le soufre. La Bible, dit en substance Spinoza, n'a pas été écrite par Dieu, mais par des hommes. Il n'en faut pas plus pour qu'on lui reproche de ne pas croire en Dieu et d'attaquer la religion alors qu'il s'en prend surtout aux religieux. Il écrit en latin, pas en néerlandais, ce qui lui évite sans doute quelques procès. Mais prudence encore. C'est sous un faux nom qu'il publie un traité théologico-politique qui défend entre autres la liberté de philosopher, mais qui fait un scandale en développant une pensée plus radicale encore que celle de Descartes. Condamné par toutes les autorités religieuses, Spinoza devient de plus en plus prudent. Ses lettres portent toute sa devise en latin « caute », attention en français. Si Spinoza échappe au grand procès religieux du XVIIe siècle, c'est aussi parce qu'il meurt relativement jeune, à 44 ans. Sa propre famille ne lui pardonne rien, au point que sa sœur Rebecca vend tous les maigres biens de son frère à la crier dans la rue, jusqu'à ses souliers, ses chandelles. Ce sont ses amis qui récupèrent ses écrits et sauvent cette pensée si éclatante et si avancée pour son temps. Que dit Spinoza de si scandaleux ? Il serait impossible ici de décrire une philosophie aussi complexe que la sienne, mais ses formules les plus célèbres permettent de trouver une réponse. La première tient en trois mots. Deus sive natura, en latin, soit Dieu, c'est-à-dire la nature, en français. Cette phrase reprise de Descartes est au cœur de l'éthique, le grand ouvrage posthume de Spinoza. Elle bouleverse la vision même de Dieu, qui n'est plus chez lui un pur esprit, mais se confond avec la création, sans libre arbitre et sans volonté propre. Ce Dieu nature est soumis aux lois naturelles, lois qui s'expliquent, qui se découvrent. Et puisque Spinoza rappelle dans une deuxième formule que l'homme est une partie de la nature, nos désirs et nos décisions ne sont que le fruit de différentes causes biologiques, sociales ou psychologiques qui déterminent notre existence et nos désirs. Ce qu'on prend pour une liberté n'est que déterminisme, dit Spinoza. Après tout, l'enfant croit désirer librement le lait. Les conséquences sont énormes. Si on part de ce principe, il ne s'agit plus de faire l'éloge ou de condamner les actes des hommes, mais d'en analyser les causes par l'analyse et la raison, bref, de comprendre comment ça marche au lieu de porter un jugement moral. Reste enfin l'œuvre politique, la plus révolutionnaire peut-être, parce qu'elle s'attaque en plein XVIIe siècle à ce que personne n'ose encore ouvertement remettre en cause, l'influence de la religion sur la politique. La religion est à ses yeux le moyen le plus sûr pour le pouvoir de faire à ses sujets ce qui lui convient, y compris quand les conséquences en sont désastreuses pour eux-mêmes. Pourquoi les hommes se battent-ils pour leur servitude comme s'il s'agissait de leur liberté et comment y échapper ? C'est ce à quoi son traité politique veut répondre en cherchant à définir le système politique le plus fort et le plus durable possible, celui qu'aucune manipulation ne pourrait renverser. Cela passe par la séparation de l'Église et de l'État, mais surtout par la démocratie. Pour Spinoza, c'est le seul régime capable de garantir une liberté de pensée qui est une condition sine qua non de la paix civile puisqu'elle met un terme aux conflits religieux qui déchirent son époque. Et ça, c'est d'une modernité incroyable. Bien avant Montesquieu, le philosophe hollandais réfléchit aux bienfaits de la séparation des pouvoirs. Bien avant les Lumières, il défend déjà un droit à la liberté de pensée que personne encore n'avait formulé avec autant de clarté. Et la meilleure preuve de cette modernité, c'est que Spinoza est encore aujourd'hui au cœur des réflexions de ses héritiers et provoque toujours des débats 3 siècles et demi après sa mort. N'est-ce pas le plus beau destin que peut espérer un philosophe ?
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Spinoza, nous avons le grand plaisir d'accueillir une autre philosophe. Bonjour Blandine Kriegel.
Bonjour.
Bonjour Blandine Kriegel. Vous êtes philosophe, professeur des universités. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage Spinoza, une autre voie, qui sera réédité en octobre prochain en format poche aux éditions du Cerf. Alors justement, quelle est simplement cette autre voie que Baruch Spinoza a tracée au XVIIe siècle?
Eh bien très simplement, vous savez que la voie moderne, la via moderna comme on dit, qui a dominé absolument la philosophie contemporaine, de Descartes jusqu'à Sartre, disons ça, c'est la philosophie de du cogito, n'est-ce pas, qui part du je, du sujet. Or, la philosophie de Spinoza, non. Elle part de Dieu et de la nature. Et là, il y a une très très grande différence. Donc, une autre conception des rapports de l'homme à la nature, une autre conception de l'homme, et une place à la politique qu'il n'y a pas dans la philosophie de Descartes, n'est-ce pas? Et au fond, une voie qui ne conduit pas à l'idée que l'homme peut devenir maître et possesseur de la nature, à l'idée que les animaux sont des animaux-machines, à l'idée que, au fond, ce qui est important dans l'homme, c'est la domination de l'âme sur le corps, non. Pour Spinoza, il y a une égalité, en quelque sorte, de l'âme et du corps. Ce qui fait que la philosophie de Spinoza, pour les astrophysiciens, pour les médecins, pour la jeune génération, elle semble beaucoup plus actuelle que la philosophie cartésienne, qui nous a d'ailleurs conduit peut-être à... il n'est pas directement responsable, mais enfin, aux grandes aventures démiurgiques, n'est-ce pas, puisque l'homme est par-delà le bien et le mal, l'homme est peut-être comme un dieu, l'homme n'est pas dans la nature du XXe siècle.
On parlait tout à l'heure du côté choquant de la pensée de Spinoza à l'époque. Vous écrivez dans votre livre que Spinoza pensait la supériorité de la philosophie sur la religion. C'est ça qui a le plus choqué de tout ce
C'est-à-dire, vous avez raison, c'est comme ça qu'il a été compris. Mais en vérité, ce n'est qu'une partie de sa conception des rapports de la philosophie et de la religion, parce que avec le traité théologico-politique que vous avez cité, Spinoza évidemment a eu un succès de scandale terrible, parce que il a commencé par une exégèse critique de la Bible et par l'idée qu'il faut séparer au fond la religion qui repose sur la foi et sur une certaine obéissance de la science, et en particulier que la foi n'a rien à nous dire sur la nature, il faut laisser ça à la science. Donc ça a provoqué évidemment un scandale, mais ce n'est pas le dernier mot de la pensée de Spinoza sur la religion, parce que pour lui, n'est-ce pas, si la religion ne doit rien nous dire sur la nature, il faut laisser ça à la philosophie naturelle, c'est-à-dire à la science physique. En revanche, elle a beaucoup à nous apprendre sur la politique et sur la façon dont les hommes vivent. Et toute la politique de Spinoza, elle est fondée sur deux choses. D'abord, sur la fameuse formule que tout le monde connaît, qui est celle du Christ, et qui est « aime ton prochain comme toi-même ». Et deuxièmement, sur une étude très importante du modèle des Hébreux, dont il tire beaucoup d'enseignements pour la construction de la politique moderne, que la politique doit être fondée sur le pacte, c'est-à-dire un consentement qui ressemble à la vieille alliance, que la politique ne doit être fondée simplement sur la puissance, mais qu'il faut diviser la puissance dans la séparation des pouvoirs. Et je suis très heureuse que vous ayez relevé cet aspect-là, parce que ça fait des décennies que j'essaye de rappeler que Spinoza est en fait un des véritables fondateurs de la théorie de la séparation des pouvoirs, qu'il a influencé Locke avant Montesquieu, et enfin les droits de la personne qu'il tire, comme tout le monde à son époque, là, il n'est pas original, sauf qu'il ajoute la liberté de penser d'une lecture très attentive, n'est-ce pas, des écrits, des écritures.
Bon, je l'ai dit, c'est inspiré d'abord de Descartes, mais il a développé ensuite une pensée beaucoup plus radicale que la sienne.
Vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus, parce que, bien sûr, Spinoza a commencé, comme tout le monde de son temps, tous ceux qui s'intéressaient à la modernité, à lire Descartes, mais au fond, la différence fondamentale, c'est qu'il s'éloigne de Descartes. C'est une autre voie que celle de Descartes. Pourquoi ? Sur quel point il s'éloigne de Descartes ? Eh bien, d'abord, la liberté, n'est-ce pas ? Pour Descartes, vous savez, le libre arbitre, la liberté est originaire, absolue.
Et là, donc, c'est l'inverse.
Oui, ça fait de l'homme quelqu'un qui n'est plus dans la nature, qui est hors,
oui,
de la
hors
nature.
De la nature. Et qui la domine. Et qui
parfaitement, et plus encore, ça fait aussi de lui, ça fait au fond de l'homme quelqu'un qui est totalement différent des animaux. Vous savez, c'est sa théorie qui nous indigne aujourd'hui, des animaux machines. Alors que Spinoza tout de suite dit, ben non, les animaux, par exemple l'insecte ou le cheval, eux aussi ont un esprit, ont un jugement. Ce n'est pas le même que le nôtre, n'est-ce pas? Mais ils en ont un. Alors donc, il s'oppose à cette idée d'une domination impérieuse et impériale, n'est-ce pas, de l'homme sur la nature. Et il réinscrit l'homme dans la nature en Dieu. Au fond, il montre que le rapport de l'homme à Dieu et à la nature est le rapport du fini à l'infini, que nous sommes seulement des modes, nous ne sommes pas des sujets absolus, nous sommes, comme il le dit, des modes finis, des existences singulières, une réalité que nous partageons avec tous les êtres dans la nature. C'est, si vous voulez, et c'est là son avance, parce que nous savons aujourd'hui que nous sommes dans la nature, n'est-ce pas, que si nous considérons que nous n'y sommes pas, eh bien nous provoquons des catastrophes. Et de même, il s'éloigne encore de Descartes en expliquant qu'il n'y a pas au fond cette hiérarchie entre l'âme et le corps, que si nous voulons justement nous dégager de la puissance de la nature, il faut la connaître et la comprendre, et pour la connaître et la comprendre, au fond il faut user de tout, n'est-ce pas, et en particulier de ce qui est fort chez nous, de ce qui est puissant chez nous, notre énergie vitale. Il appelle ça le conatus, nos désirs. Connaître la nature, connaître notre puissance, ce n'est pas à penser que nous sommes plus puissants que la nature, parce que nous ne le sommes pas, mais c'est utiliser notre force vitale pour évidemment arriver, si vous voulez, à nous diriger vers, non pas vers la liberté absolue, qui n'est pas au départ, mais vers une libération, un processus de libération, justement, par la connaissance et une place donnée à notre force.
Un dernier point, Blandine Krégel, outre la politique et la religion, il y avait d'autres points sur lesquels Spinoza était en avance sur son temps, notamment il pensait qu'il y avait d'autres planètes, il pensait aussi par exemple que nous sommes gouvernés par nos affects. Il y a d'autres points comme ça où
Tout à fait, on n'aura pas le temps de les développer, mais vous avez tout à fait raison. Spinoza est du temps de l'astrophysique nouvelle, et c'est pour ça d'ailleurs que les astrophysiciens comme Einstein ont dit leur assentiment à sa vision d'un univers infini. Il est aussi du temps de la réhabilitation, ce que fait déjà Descartes, il faut le reconnaître, des passions, mais lui, pour lui, il faut donner une place beaucoup plus importante aux affects. Il faut réfléchir sur la différence entre les affects qui augmentent notre puissance d'agir et ceux qui nous la, au contraire, la diminuent. Et par exemple, évidemment, les médecins aujourd'hui, qui ont à en finir avec les addictions, au fond, trouvent beaucoup plus d'indications philosophiques intéressantes dans la philosophie de Spinoza que dans celle de Descartes, qui dit simplement qu'il y a une supériorité de l'âme sur le corps et que l'âme doit dresser le corps. Mais on sait bien que ça ne marche pas, n'est-ce pas, pour guérir les addictions.
Alors, c'est, on sait qu'il est vraiment très actuel, Spinoza. Ouais. Merci beaucoup, Blandine Krégel, de nous avoir éclairé, d'avoir rendu si clair Spinoza. Je rappelle votre livre « Spinoza, une autre voie » qui sera réédité en format de poche aux éditions du Cerf le 21 octobre prochain. C'est plus facile de vous lire que de lire Spinoza, non?
Ah oui.
J'espère que... Écoutez, oui, parce qu'il y a le 17e siècle. Mais non, je vais vous dire en conclusion. Lisez Spinoza.
Merci à vous.
Merci à vous.
16h, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui étaient très en avance sur leur temps. Après Spinoza, Mathieu, vous nous brossez... Enfin, je vais dire, après Spinoza, Mathieu, ça fait... Il s'appelait Barour.
Oui, mais c'est un peu ça.
Vous nous brossez le portrait à 99% vrai d'un garçon bien vivant, précurseur du rap et de la mode, tellement en avance sur son temps que je ne sais pas qui il est, mais il s'appelle... Azap ou Asap Rocky, c'est un surnom, c'est pas son vrai nom, hein, on n'est pas comme ça.
Décidément Stéphane, vous n'êtes pas quelqu'un qu'on dupe facilement. Effectivement, Asap Rocky n'est pas son vrai nom. Vous n'avez jamais entendu parler de lui, vous qui présentez des émissions où vous criez des choses tout aussi incompréhensibles pour lui que...
Alors tout de suite, on va retrouver Danny Briand qui revient.
Stéphane, le fait que vous ne connaissiez pas, que vous n'ayez même jamais entendu parler d'Asap Rocky, c'est quelque chose qui le blesserait profondément. Car une des caractéristiques principales d'Asap Rocky, c'est justement d'avoir une conscience aiguë du talent d'Asap Rocky. Les uns rock, Rolling Stones et Télérama l'adorent presque autant qu'il ne s'adore lui-même et nous explique, nous autres pauvres boomers durs de la feuille, que Asap Rocky est un des rappeurs les plus audacieux de sa génération. Certains journalistes osent même le mot génie. Alors forcément, avoir une si bonne presse, ça n'aide pas notre Rocky à redescendre sur terre en termes d'humilité. Dans une interview pour le site Complex, Asap, avec un S en forme de dollar, le dit sans détour et sans fausse modestie: je me sens comme l'un des meilleurs artistes contemporains du moment. Ma musique est en avance sur son temps. Les autres me rattrapent 2, 3, 4 ans plus tard. Oui, courage les nuls, on se retrouve sur la ligne d'arrivée. Alors, vous allez me dire, une telle prétention, sa musique doit vraiment être à part, singulière, ovniesque dans le monde du rap. Oh, 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 vous n'allez pas être déçus. Oh my god, unbelievable, ça ressemble
Eh ben, du rap, en fait. Hein. Mais, pardon, Rocky, certainement nos oreilles de boomer. Une chose est sûre, au-delà de ce qu'il fait, ASAP excelle surtout dans la manière de nous le vendre. Génie du marketing, ça c'est clair. Il fait de chaque sortie d'album ou de titre un événement à grand renfort de teasers mystérieux, de communication sur les réseaux sociaux. Son troisième album, Testing, est l'un des plus gros succès de sa carrière. Il a voulu offrir des titres expérimentaux à son public, car, je cite Monsieur Boulard, « Aujourd'hui, les artistes ont peur de tester de nouvelles choses. Ils font et refont ce que tout le monde a déjà fait. C'est faux !» On a tous en tête l'album Pokora, chante Clo-Clo. Ça, visiblement, il l'a pas entendu à ASAP. Mais lui n'en démord pas, il est en avance. Il va plus loin, comparant même la découverte de son œuvre à une prise de stupéfiant. Lorsque les gens décrivent l'expérience du LSD, ils parlent de couleurs qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Oh. Je voulais que mes créations procurent ce genre de sensation.
Qu'est-ce que c'est que ça, du crack? Du LSD?
Non, c'est le dernier album d'ASAP Rocky. Oh là là, Stéphane, j'espère que je vais pas devenir addict. C'est vrai que c'est si différent, hein. Il n'empêche, tout le monde l'encense, les Grammy Awards tombent comme à gravelotte, mais même ça, il s'en cogne, Rocky. Mon Grammy, je le reçois quotidiennement lorsque les gens m'arrêtent dans la rue pour me dire combien j'ai changé leur vie.
Oui, ils passent encore dans la rue.
Ils passent dans la rue, il faut que la rue soit très très large. Ah, ça bah peut oui. être que la 5ème avenue, si vous voulez. ASAP, c'est tous les jours qu'on l'arrête dans la rue, c'est crevant à la longue, d'autant que pas de bol pour lui, il n'est pas qu'un génie précurseur du rap, non, il est aussi un génie précurseur de la mode. Vous voyez David Castello-Lopez?
J'ai une paire de derby en nubuck marron avec semelle en caoutchouc.
Eh ben, c'est l'inverse. ASAP, lui, il casse les codes. Et, pas que, me direz-vous, mais c'est vrai, il casse les codes. Il est ultra pointu vestimentairement parlant. Pour faire simple, il a tout inventé. Lorsque tout le monde s'habillait encore en baggy dans le milieu du rap, lui portait des jeans skinny ou du slim. Un parti pris audacieux qui paye puisqu'il devient l'égérie de Dior, incarnation de l'audace vestimentaire. Au gala du LACMA, Los Angeles, il portait par exemple un costume noir très élégant auquel il avait associé une robe de chambre en satin et un foulard sur la tête.
Horrible.
Novateur, Stéphane, novateur. Mais alors, comment en est-on arrivé là ? ASAP Rocky, de son vrai nom Rakim Atelson Nakash Myers, naît le 3 octobre 88 à Harlem, un quartier de New York que vous connaissez bien, Stéphane, puisque lors de votre dernier séjour au Hilton de l'Upper West Side, vous aviez pris le authentique NYC Bus Tour qui vous avait mené à Harlem, où vous étiez passé devant une église baptiste où on chantait du gospel pour vous, et le terrain historique des Harlem Globetrotters. Un Harlem qui n'est pas, laissez-moi vous le dire, celui d'ASAP Rocky qui lui a grandi dans le Harlem où le big bus de l'authentique NYC Tour ne passe pas. À côté de son enfance, les films de Ken Loach sont des comédies romantiques. Rocky perd son père à l'adolescence après des années de prison, sa petite sœur Erika succombe à une overdose et son frère Ricky est assassiné lorsqu'il a 13 ans. C'est ce Harlem-là. Ah oui. Très vite, ASAP se réfugie dans la musique et commence à rapper dès l'âge de 8 ans. Après l'incarcération de son père et le meurtre de son frère à cause d'un trafic de drogue, il se fait cette réflexion « Dealer n'est pas un métier d'avenir ». On a tous un rapport différent à la drogue.
S'il y en a, j'en prends.
ASAP, lui, échaudé par ce qu'il a vu, décide de ne pas y toucher. Malgré tout, la spirale de la loose continue avec sa mère, il passe d'abri de SDF à squat insalubre. Alors quand il a 15 ans, oui c'est vrai, il vend un peu de crack. ASAP expliquera des années plus tard que c'était pas pour se nourrir ou aider sa mère qu'il dealait du crack, mais juste pour pouvoir s'acheter des fringues haute couture. Ah, c'est bon alors. En 2007, sa vie bascule quand il intègre un collectif nommé ASAP Mob, d'où son nom de scène. Il n'avait pas envie de s'emmerder, c'est comme si demain je décidais de me faire appeler historiquement. Il sort son premier single en 2011, Pesso. On l'a déjà entendu. 3 ans plus tard, il signe un contrat de 3 millions de dollars avec Sony et décide ensuite de lancer son propre label parce que bon, bosser pour des clopinettes, ça va 5 minutes. Son premier album est disque d'or, mais son cœur, lui, est en sucre. Car si ASAP aime la musique et la mode, il aime aussi l'amour. Je cite Wikipédia, section vie perso. Je n'en demandais pas tant, préparez-vous Stéphane. Il aurait participé à sa première orgie sexuelle à l'âge de 13 ans. Il admet avoir un goût prononcé pour les threesomes, plan à 3, nous précise le site.
Oh mon dieu!
Et oui, je continue, il lui arrive d'organiser régulièrement des orgies au cœur de sa propriété de Beverly Hills. Pour l'anecdote, en 2015, il confesse avoir participé à 3 orgies impliquant 9 femmes différentes au cours du même soir. Heureusement, l'amour, le vrai, va surgir et l'arracher aux griffes pernicieuses du sexe de groupe, ce que ses fans appellent pudiquement...
La grande farandole.
Oui, au fait, je ne pourrais pas être là pour la grande farandole de samedi soir, vous embrasserez pour moi les autres. Les parties fines, pour ASAP, en tout cas, c'est fini, maintenant il y a elle. Oui David, arrêtez de baver depuis 2013. Il y a Anguille sous roche, Rihanna joue dans les clips d'ASAP, ASAP joue dans les clips de Rihanna. Ça se renifle, ça se tourne autour, mais de bons collègues de travail, c'est officiel, ils sont passés à conjoints. Rihanna plus ASAP égale cœur. Lors d'une interview accordée au magazine GQ, ASAP officialise leur histoire avec cette magnifique déclaration d'un romantisme inouï. C'est tellement mieux quand vous l'avez celle-là. Des partous, des trisomes, d'été Rihanna. Il a fait des trucs dingues dans sa vie, le ASAP. Vous, David, vous avez fait quoi de dingue dans votre vie?
J'ai été végétarien.
Voilà, bon anniversaire quand même. Et on fait tourner les serviettes. Ça me donnait envie de découvrir sa discographie, je sens, Stéphane,
non,
à sa
proquis.
Pas un instant. J'ai écouté tout ce que j'ai pu de lui et je n'ai rien trouvé qui me plaise non plus. Je dois vous dire que je ne comprends pas trop son succès.
En tout cas, merci de m'avoir éclairé parce que dans cette émission, évidemment, on apprend sur le passé, mais on apprend aussi sur...
Sur l'avenir, peut-être.
Ou ce qui est passé sans nous.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour qui savaient bien que ce moment arriverait, vu qu'ils ont toujours un temps d'avance.
Moi, en revanche, j'avais rien vu venir. Fatalement, voir comme ça David et Olivier, je suis un peu déboussolé. Olivier, vous nous parlez d'un plat qui vous tient à cœur aujourd'hui, les gratons.
Ouais, même deux plats pour le prix d'un, puisque vous verrez qu'en fonction des régions, les gratons ne veulent pas dire la même chose.
Mm-hmm. Mais tout de suite, on va retrouver... on est un peu dans Spinoza, là. Il vendait des lentilles et des microscopes.
C'est simplement pour ça qu'il a choisi ce sujet-là.
J'imagine, ce garçon, même le jour de son anniversaire, a encore la tête sur les épaules.
Oui, 40 ans, mon vieux.
Oui, putain.
40 ans
40 ans, le temps, il ne le fait pas.
Je l'ai fait complètement, j'en fais un petit peu plus.
Non, pas du tout.
Vous avez vu l'état de mon visage?
Regardez, moi je suis tout blanc, j'ai même pas 40 ans. Vous n'avez pas un cheveu blanc.
Oui, j'ai 9 lignes de cerne sous mes yeux.
Très peu. Il faudrait un microscope pour les voir. C'est votre sujet, je crois. L'origine du microscope, David.
Tout à fait. Je crois que parmi tous les jeux que j'ai eus quand j'étais petit, un de mes préférés, c'était vraiment mon premier microscope. Parce que pendant plusieurs semaines de ma vie, peut-être même des mois, j'ai observé tout ce que je pouvais avec. Alors des fois j'étais déçu, notamment pour toutes les choses non translucides, parce qu'on voyait rien. Mais quand même il y avait certaines choses marrantes. Le papier par exemple, dont on pouvait discerner les milliers de petites fibres qui ressemblent à des poils. Les cheveux au microscope dont les racines deviennent d'énormes bulbes de cristal. Se gratouiller l'intérieur de la joue par exemple et étaler ce qu'on avait sous les doigts sur les petites lames de verre qui étaient fournies. On voyait les cellules de la peau et on pouvait les compter. Et puis j'ai grandi. J'ai mis le microscope de côté jusqu'à l'adolescence. Et là, un jour, en 1995, j'ai eu brusquement une nouvelle idée de choses à regarder au microscope. Je ne peux pas dire de quoi il s'agit, mais disons que j'aurais pas pu avoir cette idée quand j'étais enfant.
Non, j'étais sûr que c'était ça. Tu es fou, tu vas trop loin.
Et là, j'ai vu apparaître dans l'objectif des choses minuscules et frénétiques dont l'existence, je le savais, ne tendait que vers un seul but, permettre la réalisation de nouvelles versions de moi-même. Et j'ai été ému parce que ces petits êtres frénétiques semblaient d'un dévouement total à leur tâche, sans savoir, les pauvres, que ni eux, ni aucun de leurs successeurs, jusqu'au moment où je vous parle, ne verrait sa vocation s'épanouir. Et pour ce moment inoubliable, j'ai décidé de vous parler des origines de l'objet qui l'a rendu possible, le microscope. Alors, l'élément de base du microscope traditionnel...
Le mec essaye de revenir sérieux après ça. C'est pas possible, David. On vous imagine tous, on visualise.
Peut-être, vous faites bien, j'espère que vous me visualisez. Alors, l'élément de base du microscope traditionnel, c'est la lentille grossissante, c'est-à-dire un morceau de verre convexe des deux côtés qui fait apparaître les choses plus grandes qu'elles ne le sont. C'est une loupe, en fait, si vous voulez. J'ai essayé pour vous de comprendre pourquoi une loupe avait le pouvoir de rendre les choses plus grandes à nos yeux, mais j'ai abandonné parce que je pense que ça m'aurait pris 3 jours, c'est complètement incompréhensible. Donc voilà, les morceaux de verre convexe des deux côtés, ça fait apparaître les choses plus grandes, c'est comme ça. Ces premières loupes, elles datent au moins du 13e siècle, si ce n'est d'avant, et elles ont été un petit peu à peu raffinées, si vous voulez, jusqu'à ce que, à partir du 17e siècle, elles permettent de voir des choses vraiment minuscules. Les boss de l'optique à l'époque, ils étaient pratiquement tous en Hollande, on a un petit peu vu avec Spinoza, et les premières lentilles ultra grossissantes, donc, elles viennent de là. En 1660, il y a un Anglais, Robert Hooke, qui a utilisé un microscope pour observer une puce à un niveau de détail inédit, et il en a fait un gros dessin qui est très connu aujourd'hui. Vous voyez, je l'ai pris ici, c'est pas mal, on voit vraiment super bien la puce. Mais les microscopes, à ce moment-là, ils avaient encore un problème, c'est que quand vous combiniez les lentilles pour grossir beaucoup, il y a ce qu'on appelle des aberrations optiques. C'est-à-dire, l'image est un petit peu floue, on voit pas bien, c'est un peu flou et en plus on voit pas bien les couleurs. Et c'est que à la fin du 19e siècle qu'on est arrivé à régler ce problème, principalement en ajustant avec une précision qui était pas possible jusqu'alors, la forme des lentilles. Et en 1880, en Allemagne, on a atteint le maximum de grossissement possible avec des lentilles, c'est-à-dire un grossissement d'à peu près 1000 fois. Et puis dans les années 30, il y a un savant allemand qui a inventé le microscope électronique. J'ai également essayé de comprendre comment fonctionnait un microscope électronique, mais franchement, c'est complètement impossible. C'est-à-dire qu'il faut un cours de 2 heures avant sur la nature de la lumière, des ondes, de l'électromagnétisme pour commencer à entrevoir le principe. Mais disons que le commun des mortels peut se contenter de cette maxime. Le microscope optique, il grossit les trucs un peu. Le microscope électronique, il grossit les trucs beaucoup. Voilà.
C'est mieux pour nous, oui.
Voilà, beaucoup, jusqu'à 50 millions de fois. 50 millions de fois. Pour vous donner une idée de ce que ça fait,
Si Stéphane, on vous grossissait 50 millions de fois, vous feriez 86 000 km de haut. C'est deux fois la circonférence de la Terre, donc c'est beaucoup. Vous voyez, ça donne une petite idée.
Mais ça, c'est des microscopes ultra professionnels qu'on trouve dans certains labos.
Ah oui, complètement.
C'est pas du tout les microscopes qu'on achète pour jouer.
Tout à fait.
On n'a plus aucun intérêt de regarder ces...
Non, c'est beau, ce serait beaucoup trop grossi. En tout cas, si vous êtes un garçon et que vous avez le matériel nécessaire, je vous invite à faire...
Quel matériel parlez-vous, le microscope?
Oui, bien sûr, enfin, l'autre chose. Mais je vous invite à faire l'expérience que j'ai décrite au début de cette chronique. C'est totalement inoubliable.
Ça se fait pas en classe, en revanche.
Ça se fait pas en classe.
On dit maîtresse. J'ai une idée de...
Merci. Bon, écoutez, un peu de tenue, hein, s'il vous plaît. Merci, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui, chaque après-midi, remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et ce qui fait notre quotidien, selon Olivier Poul, c'est essentiellement la bouffe. Mmh. Et parmi tous ces ingrédients, tous ces petits plats, les plus caloriques sont ceux qui vous intéressent le plus. Aujourd'hui, on parle des gratons.
Oui, Olivier. Là, c'est vrai que j'ai pas fait dans la demi-mesure. Hein, pour l'anniversaire de David, j'aurais pu emmener un gâteau au chocolat ou un cake, un plum cake, parce que je sais qu'il adore ça. Ouais. Mais je suis plutôt tourné vers les gratons. Alors, je sais qu'il compte chaque calorie quand il les ingère.
J'adore aussi.
Ouais, mais là, il va falloir compter vite et très haut. Ouais. Mais ce qui est gras est bon. Hein. Ouais. Le gras, c'est la vie, comme on dit. Et donc, il n'y a pas de raison de ne pas se faire plaisir à l'apéro ce soir, par exemple, avec des gratons. Alors, gratons avec un T ou deux T, les deux orthographes sont acceptées. Ça, je peux déjà vous le dire. Et puis surtout, des gratons, il y en a plusieurs et plusieurs recettes en fonction des régions dont on parle. Alors, je vais commencer par les gratons bordelais. Alors ça, c'est une recette qui a été inventée par un charcutier de Lormont, qui se trouve dans la région de Bordeaux. Il s'appelait Bernard Gaudin. Et alors, elle se compose de jambon frais, de gras, évidemment, et d'épaule de porc. Ça ressemble à une terrine dont on coupe de belles tranches. Le mot graton vient de gratter le fond de la marmite dans laquelle la préparation a cuit pendant très longtemps, une dizaine d'heures en réalité. Et au début du XXe siècle, cette spécialité est très très réputée. On vient de toute la région pour la déguster. Ça ressemble à une espèce de terrine, de morceaux de porc avec du gras dedans qui a vraiment confit pendant très longtemps. Il y a un côté un petit peu croustillant dedans et un côté très fondant aussi. Franchement, c'est vraiment très bon. Alors, cette charcuterie n'existe plus, mais aujourd'hui, dans la région, il y a encore beaucoup de charcuteries qui ont repris cette recette et qui continuent donc à faire ces fameux gratons bordelais. Et puis, Stéphane, je dois vous parler du graton lyonnais.
Bien sûr.
Celui-là, vous le connaissez sans doute.
Bien sûr.
Alors ça, c'est irrésistible. C'est une espèce de petits bonbons, de morceaux de porc qui sont là aussi confits. Ils sont croustillants à l'extérieur et moelleux dedans. Ça se mange à l'apéritif, ça se mange beaucoup aussi à la période du Beaujolais Nouveau. Parce que là, franchement, le Beaujolais Nouveau qui vient...
on n'est plus... Là, on calcule plus rien. On lâche tout, quoi, pour le
Beaujolais Nouveau. Qui vient rafraîchir, vous mangez ces gratons bien gras, un petit peu salés. C'est absolument fantastique. J'adore ça. Il y a un certain nombre de charcutiers qui le font aussi. Alors ça, on peut le faire à la maison. C'est pas très compliqué. Il faut ce qu'on appelle du rigon. Et le rigon, c'est une partie très grasse du porc qui est située sous la poitrine. Alors ça, on peut le demander à son charcutier, sinon on peut prendre du lard. Et l'idée, c'est de prendre ces morceaux, de les couper en tranches d'environ 7-8 cm. On les met dans un grand récipient à cuire, par exemple un confiturier, c'est très bien. Et là, on les oublie à petit feu pendant 4 ou 5 heures. Le gras va fondre, donc il faut pas cuire trop chaud pour garder un gras bien blanc. Les gratons vont confire, et quand ils auront fini de confire, ils vont commencer à griller à l'extérieur. Et alors là, vous avez un jeu de texture qui est absolument fantastique. Voilà, 4-5 heures de cuisson, vous les oubliez, vous les égouttez, vous les faites absorber un petit peu sur un papier absorbant, c'est pour récupérer un peu de ce gras. Sel, poivre, et c'est irrésistible.
On vous sent, Olivier, au bord de l'orgasme. Apportez un microscope pour Olivier. C'est vraiment, on sent une recette qui vous tient à cœur.
Non, et puis alors, après, on peut le faire aussi avec du canard. Dans le sud-ouest, on le fait. Ouais, avec des morceaux de canard qui sont constitués d'un peu de gras autour. Et là, dans ces cas-là, on appelle ça souvent les fritons. Et les fritons de canard, dans le sud-ouest, je peux vous garantir, c'est délicieux, ça aussi.
Olivier, on a tous envie de passer à table maintenant, mais pourtant, ce n'est pas encore l'heure. On retrouve évidemment toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr.
Europe 1, historiquement vôtre.
Aujourd'hui, vous le savez, c'est l'anniversaire de David Castello-Lopez, un garçon talentueux, mais dont le talent n'est pas compris par tous, comme il s'en ouvrait à nous l'autre jour.
J'ai reçu un texto d'inconnu l'autre jour qui m'a dit « Je vous trouve très surcoté ».
Pour son anniversaire, j'ai décidé de lui offrir mieux qu'un cadeau. Mes points dans la lutte finale.
Non.
Si tant est que j'en marque.
Oh. Alors... Ils sont là tous les trois, Olivier, Mathieu et David. À la fin, il en restera trois, mais un seul aura d'autres considérations. Olivier, la première question est pour vous. Au XVIIe siècle, quand on avait un mort à la maison en Angleterre, on faisait appel à un mangeur de péché. C'est-à-dire qu'on mettait du pain sur le défunt, ça absorbait les péchés, puis le mangeur de péché venait et mangeait le pain. Voilà. C'est vrai ou c'est faux ?
En Angleterre.
En Angleterre, oui.
Non, le pain qui absorbe les péchés, puis un gars qui vient de manger, n'importe qui. Enfin, non, c'est absurde. Franchement, c'était... Non, je n'y crois pas.
Mais non, Stéphane, c'est vous qui l'avez inventé.
Souvent, on venait venir à un vagabond, on lui donnait quelques pièces, mais parce que faut savoir qu'il fallait le récompenser, parce que dès qu'il avait fini de manger les péchés, qui étaient absorbés par le pain, on le rouait de coups pour le chasser au plus vite, pour qu'il ne contamine personne. C'est un sandwich gratos. Alors,
un sandwich au péché, quoi.
David, c'est pour vous. Quand on parle de la Grande Muraille de Chine, on parle communément de la partie édifiée durant la dynastie des Ming. Je le précise parce qu'autour de cette table, il y a des esprits pointilleux que l'aigreur incite à la moindre contestation mesquine. À un endroit de cette muraille de Chine, pour en descendre, on peut prendre un toboggan et ça dure 3 minutes. C'est vrai ou c'est faux ?
C'est vraiment à la pile ou face,
ouais,
quoi.
Ouais, c'est ça.
J'ai envie de dire, c'est faux.
Si, le toboggan se situe à Moutianyu, c'est dans le district de Huairu.
Oui, ah oui, à côté de. Oui. Quand vous prenez l'autoroute, là, c'est juste à la sortie. Oui, je vois très bien.
Mathieu, élevons-nous un peu. Évoquons une fête religieuse indienne très importante à la gloire du dieu Bereshvara. Un dieu né dans une bouse de vache. Tous les ans, depuis des décennies, on fait une bataille de bouse de vache en son honneur. En novembre 2020, à cause du Covid, il n'y en a pas eu. Ce qui était évidemment très triste. C'est vrai ou c'est faux ?
Alors, peut-être que c'est vrai cette histoire. Non, il y a eu la bataille de bouse de vache.
Donc vous dites c'est faux ?
C'est faux.
Oh ! Eh oui. Covid ou pas, on a fait la bataille de Bouze.
Bien sûr, voilà.
La grande fête hindoue des Lumières doit absolument avoir
c'était
lieu.
C'était vicieux quand même.
Eh oui,
les conséquences ont été terribles.
Terribles. Les conséquences ont été terribles.
Mais pas que
évidemment.
À cause de la bouse de vache.
Oui. Alors bon, il n'y a pas besoin d'avoir...
Non, c'est David qui remporte le but, parce que je lui offre le but. C'est son anniversaire, c'est ses 40 ans, voilà. C'est David Castello-Lopez qui triomphe une fois de plus.
Bravo David et merci à Mathieu.
Je vous rendrai l'appareil au
pour mon anniversaire, c'est le 13 novembre, exactement. Moi je te dis. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève, il était consacré à David Castello-Lopez et accessoirement au personnage de l'histoire qui était comme lui en avance sur leur temps. Vous qui êtes toujours en avance sur votre temps, Stéphane, vous devrez pouvoir m'annoncer le programme qui nous attend demain.
Mais demain, ils ont dansé avec des stars. On réunit la danse du siècle, Martha Graham, Jean-Baptiste Lully, qui a dansé aussi, et fait danser pas n'importe qui, hein, le roi Louis XIV, et celui qui danse avec les stars à la télé, Chris Marquez.
Si vous dansez aussi, je viens.
Venez, vous verrez bien. Allez, à demain, Mathieu. À demain, les amis. À demain, chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.